Bienvenue sur les apprentis lecteurs Le Trône de Fer, le podcast lecture relecture du Trône de Fer ou The Song of Ice and Fire, d'où est tirée la série Game of Thrones sans spoiler. Alors moi c'est Ilan.
Moi c'est Guillaume.
Mais une petite subtilité se glisse en ce début d'épisode. Donc ce que vous écoutez est un message du futur, parce que en effet, quand on a commencé l'émission, moi et Guillaume, c'était pendant le premier confinement. Donc on enregistrait à distance, avec des micros qui n'étaient pas dans le haut du panier, c'est le cas de le dire. Donc le son de ces premiers épisodes n'est pas terrible. On voulait en informer nos nouveaux éditeurs, car on a eu énormément de retours de personnes qui ont failli lâcher le podcast à cause de la qualité des sons des premiers épisodes. Heureusement qu'ils sont restés ensuite, parce que le contenu était bon et qu'ils nous ont fait confiance. Mais pour vous prévenir, la qualité audio est très moyenne du prélude jusqu'au chapitre 3. Ensuite, le confinement s'est terminé, donc on a commencé à enregistrer ensemble, moi et Guillaume, donc la qualité du son s'améliore à partir du chapitre 4. Et si vous tenez vraiment à une qualité de son excellente en écoutant le podcast, on a investi dans un micro professionnel à partir du chapitre 16. Donc à partir de là, le son sera vraiment excellent jusqu'à la fin. Je sais pas quand vous nous écoutez actuellement, mais voilà. Sachez que à partir du chapitre 16, la qualité audio est presque parfaite.
Donc ce qui fait la particularité du format de ce podcast, c'est que généralement, les auditeurs commencent par le prélude ou le chapitre 1, alors que c'est vraiment nos moins bons épisodes en termes de qualité audio. Donc on tenait à prévenir nos nouveaux auditeurs pour pas qu'ils se fient à la qualité des premiers épisodes et qu'ils passent à côté du reste du podcast. Bref, sur ce, après cette longue introduction, on espère que vous profiterez du voyage à nos côtés.
Bienvenue sur le podcast des apprentis lecteurs Le Trône de Fer, le podcast sans spoiler car il est réalisé par un lecteur qui a lu la saga et un lecteur qui n'a pas lu la saga, donc Guillaume avec moi.
Salut.
Ok, donc on va attaquer pour cette semaine le chapitre, en fait je m'en fous de la numérotation des chapitres clairement parce qu'il n'y en a pas en fait. Donc on attaque le chapitre sur Catelyn, le premier chapitre de Catelyn. Donc en fait, ce chapitre, il est assez court, mais il est super fourni en informations. Clairement, pour préparer cet épisode, je pensais mettre 20-30 minutes, et au final, j'ai pris, je crois, 1h30 de mon temps pour vraiment donner toutes les informations qui peuvent être importantes, je pense, en tout cas pour l'histoire. Donc j'espère, enfin, toi, tu l'as trouvé comment ce chapitre? Tu l'as trouvé court, long, fourni en informations, pas très fourni?
Bah moi je l'ai trouvé plutôt court. Ok, il y avait des infos qui étaient balancées comme ça, mais... Genre, ça m'a pas choqué, j'ai pas trouvé le chapitre si...
Si dense que ça ?
Si dense que ça. Moi, je l'ai trouvé d'ailleurs un peu léger et tout.
Ouais, c'est vrai qu'il est un peu léger à la lecture. Mais quand on s'y attarde, enfin en tout cas, on va s'y attarder, du coup, tu verras qu'à la fin, je pense qu'on y mettra du temps.
Ok, ok.
Bon, on commence. Du coup, pareil, Guillaume, est-ce que comme chaque semaine, tu peux nous faire un petit résumé de ce que t'as compris du chapitre ?
Ouais, bien sûr. Alors... Le chapitre se déroule du point de vue de Catelyn Stark, née Tully, qui se rend dans le bois sacré de Winterfell à la recherche de son mari Lord Eddard Stark. C'est alors qu'elle vient lui apporter une terrible nouvelle. Lord Jon Arryn, sorte de père adoptif pour Ned Stark et Robert Baratheon, vient de décéder. Pour l'occasion, Catelyn prévient son mari que le roi Robert Baratheon a prévu de rendre visite à Winterfell et qu'il est déjà en route. Nouvelle qui aura pour mérite de consoler Ned Stark qui se réjouit d'accueillir son ami qu'il considère comme son propre frère. Je sens que j'ai préparé cette fois-ci ou pas.
C'est exactement ce que j'allais dire. Là, j'ai senti que tu avais écrit le résumé. J'ai senti que tu l'avais taffé de ouf cette fois-ci.
Ah bah...
Je suis explosé. Non, mais je suis content. Du coup, là, ok, tu t'y mets sérieusement.
Et il faut, hein.
Mais du coup, par rapport à ton chapitre, avec ta super belle écriture, j'ai remarqué qu'en fait, ce chapitre, il est assez court en termes d'action. Il se passe pratiquement pas grand-chose. Donc c'est vrai qu'en fait, il est assez court, ton résumé, il va vraiment au point essentiel. Enfin, tu passes du premier, du début du chapitre à la fin du chapitre en même pas deux phrases dans ton résumé. Mais c'est vrai que toutes les informations en fait, qui sont importantes dans ce chapitre, elles se trouvent dans la tête des personnages, en fait, ou en tout cas racontées par le narrateur.
Ouais, c'est vrai, c'est vrai.
Alors, comme tu l'as dit, on a dans ce chapitre deux personnages
Catelyn Stark, née Tully, comme tu l'as précisé, et Eddard Stark. Alors, je crois que tu as précisé justement que Catelyn informe Eddard, ou Ned, on va l'appeler Ned à partir de maintenant, ouais. Parce que Eddard, ça fait un peu, comment dire, prétentieux, on va dire ouais. Ça comme ça.
Ned, c'est simple.
Voilà, donc elle informe Ned que Robert vient le visiter, Robert le roi vient le visiter. Alors du coup, est-ce que tu peux nous faire une synthèse de ce que tu as compris des liens qui relient Ned à Robert ?
Pour faire simple, comme à l'instar de Theon Greyjoy qui est la pupille des Stark, on comprend que Ned Stark, lui, était la pupille des Arryn. Et il n'était pas le seul, et il avait avec lui Robert Baratheon qui était aussi une pupille de Jon Arryn. Mmh. Et qui servait un peu de père adoptif parce que lui-même n'avait pas d'enfant et qu'en gros il a élevé Ned et Robert comme ses propres enfants. On peut considérer que les deux se considéraient comme des frères.
Voilà, c'est exactement ça. Donc Ned Stark, il a été élevé, il a grandi dans sa jeunesse dans les Aériens, la forteresse des Arryn, avec comme copupille Robert Baratheon. Alors, il a grandi, justement, chez les Arryn. Alors, sur Jon Arryn, quelles informations t'as trouvées à propos de lui dans l'appendice ? Dans les appendices, pardon.
Ce qu'on a, c'est Sire des Aériens, Défenseur du Val, Gouverneur de l'Est, Main du Roi, et récemment décédé.
D'accord. Donc, Sire des Aériens, comme on l'a dit, c'est le Sire de la forteresse des Aériens. Tu l'as trouvé au niveau de la carte ?
Alors...
On en avait déjà parlé. Tu sais pourquoi ? De la maison Arryn, on en a déjà parlé.
On avait parlé du Val d'Arryn, c'était pas dans le prélude ?
Si, on avait parlé dans le prélude.
Je me souviens plus exactement pourquoi on en avait parlé.
Parce que Waymar Royce vient de la famille Royce.
Ouais,
La famille Royce, ouais.
Je sais plus, c'est un banneret, c'est ça ?
Voilà, c'est des bannerets de la maison Arryn.
J'ai pas bien compris ce que c'était des bannerets, mais j'ai l'impression que c'est un peu des...
C'est les suzerains.
Okay.
Non, les vassals, pardon. Les vassals. Les vassals ?
Vassaux.
Les vassaux ?
Un vassal des vassaux ?
Bon. Là, j'ai un bug, là.
Trêve.
J'ai l'impression de plus avoir parlé français, maintenant.
Il est tard. Bon.
Donc, est-ce que t'as vu où était le Val d'Arryn ? En même temps, c'est un peu facile, vu que t'as dit dans la partie, justement, que Jon Arryn, c'était le gouverneur de l'Est.
Oui, c'est sur la carte du Sud. Enfin, plutôt partie nord de la carte du Sud, à l'Est.
Ouais.
Comme précisé.
Ouais, non, alors le Val d'Arryn, oui, il se situe dans le sud, et comme tu as dit, il est dans l'est du sud. Donc, comme tu as dit, il est aussi gouverneur de l'est. Tu sais, je t'avais précisé dans l'épisode précédent que le terme de gouverneur du nord, par exemple, était différent du titre de Sire de Winterfell.
Oui.
Comme là, le terme de gouverneur de l'est est différent du Sire des Aériens. C'est deux titres différents. Là, ça appartenait aux mêmes personnes, donc Jon et Ned Stark. Mais c'est deux titres différents. Le gouverneur de l'Est, c'est celui qui gouverne justement l'Est des sept couronnes, en fait, tu vois.
Ah, t'es fort, merci.
C'était pour préciser, au cas où tu n'aurais pas compris. Et donc, du coup, il était aussi main du roi. La main du roi, à ce stade-là de l'histoire, en tout cas des livres, on ne sait pas encore ce que c'est.
Moi qui ai vu la série quand même, j'ai une idée de ce que c'est.
Ouais, mais du coup, on va aborder ce terme-là quand ça va apparaître dans l'histoire et quand ça va être expliqué. Ok, d'accord. Et alors, est-ce que tu as remarqué pourquoi Ned considère aussi Jon Arryn comme son frère, il est dit dans le chapitre ?
Oui, parce que, c'est son père adoptif, mais c'est aussi, je crois, si on fait le lien, c'est son beau-frère, parce qu'ils ont épousé le même jour deux sœurs. Donc, Ned a épousé Catelyn et Jon a épousé la sœur de Catelyn. Donc au final, ils font maintenant un peu partie de la même famille.
C'est ça. C'est un peu chelou, ouais, t'as raison. Hein,
C'est un peu bizarre, ton père qui épouse la sœur de ta meuf. Enfin bon, bref.
Ouais, non. Okay, alors du coup, c'est parce qu'ils ont une certaine différence d'âge, puisque justement, Ned considérait Jon comme son père. Mais du coup, oui, ils ont épousé les deux sœurs Tully. Donc, Catelyn. Et est-ce que tu as noté dans les appendices comment elle s'appelait, la sœur de Catelyn ?
Alors oui, elle s'appelle Lysa, c'est ça ?
Lysa, ok. Lysa. Et du coup, pareil, est-ce que son neveu, tu as aussi noté comment il s'appelait ? Le neveu de Kathleen est le fils, du coup, de John Arryn, qui vient de mourir, et de Lisa Tully. Alors, justement, parce qu'à un moment donné, dans le chapitre, Ned s'inquiète, justement, par rapport...
Pas Brynden.
Non, alors...
Brynden Tully, c'est quelqu'un
d'autre. Je vais l'aborder après. Brynden Tully, c'est l'oncle de Kathleen et de Lisa.
D'accord.
Donc, si tu veux, je te fais un petit point généalogique, mais que tu peux aussi trouver dans l'appendice. Alors, lorsque, justement, Ned et John Arryn ont épousé les deux sœurs Tully, donc Lisa et Kathleen, tout ça, ça s'est passé à Vivzeg. Donc, tu sais, on avait déjà parlé de Vivzeg. Tu sais à peu près où c'est ça, la carte, tu te rappelles ?
Oui, oui. C'est... Okay. Non. Où est-ce que c'est ? Ah, c'est à l'ouest. C'est à l'ouest.
Ouais, c'est à peu près à l'ouest.
C'est un peu à l'opposé du Val d'Arryn, non ?
Voilà, exactement. Donc, ils les ont épousés à Vivzeg, dans la forteresse... À Vivzeg, dans la forteresse de Lord Auster Tully. Donc, Lord Auster Tully, c'est le père de Kathleen et de Lisa.
D'accord.
Et Lord Auster Tully a un frère qui s'appelle Brynden Tully.
D'accord.
Donc, Brynden Tully, c'est l'oncle, du coup, de Kathleen et de Lisa, et le frère de Auster Tully. Et c'est celui... Alors, dans les appendices, justement, il est noté comme étant nommé le Silure. Et dans le chapitre, il est dit qu'il a été nommé le Chevalier de la Porte et qu'il sert dans le Val. T'avais vu tout ça ou je suis en train de dire quelque
chose ? Non. J'avais regardé l'appendice. Okay. Et je me souviens de cette info.
Donc, Brynden Tully, là, actuellement, sert dans le Val. Justement, et c'est ça qui va rassurer Kathleen dans le fait que Lisa et son fils Robert Arryn, justement, il s'appelle Robert Arryn, le fils de Lisa et de John Arryn,
voilà.
Sont retournés dans le Val d'Arryn, justement.
D'accord.
Aux Aériers, dans la forteresse des Aériers. Ça va, Guillaume, je te perds pas là ?
Non, je suis là.
Alors, juste pour une info bonus, est-ce que tu as noté la bannière de la maison Arryn ?
La bannière ? Ah oui, c'est ouais. C'est la bannière, ils le disent, lune et faucon, c'est ça ?
Exact, lune et faucon. Au cas où ça peut toujours servir à un moment donné, tu vas voir dans le récit de connaître les bannières des différentes familles.
Ouais.
Ok. Mais surtout, alors, est-ce que tu peux nous... compter la petite histoire qu'il y a eu par rapport au fait que que John Arryn protège Ned et Robert.
Alors, on comprend que John Arryn tenait énormément à Ned et Robert parce que à un moment, on parle du roi Aerys II Targaryen qui semblait en vouloir la tête de Ned et de Robert. Quand il dit...
Oui,
le roi, en sa démence, avisait d'exiger leurs deux têtes. Et là, John Arryn, il a refusé d'obtempérer et il a mené la révolte. Et il a brandi, justement, c'est là où on parle des bannières. Il a brandi ses bannières lune et faucon.
Ouais, alors il n'a pas mené la révolte, mais il a accompagné la révolte. Donc il a... bon là, c'est une petite précision que je te fais, mais... Quand justement, oui, le roi fou Aerys a demandé la tête de Ned et de Robert, pour l'instant, on ne sait pas pourquoi, John Arryn a refusé de se plier aux ordres du roi, et donc, oui, en tout cas, a plutôt aidé justement ces deux pupilles dans cette révolte. Mais en tout cas, on comprend pourquoi John Arryn, il considère Ned et Robert comme ses enfants, parce que je ne sais pas si tu as vu au niveau des appendices ce qui lui est arrivé. Mais c'est vrai qu'il n'a pas eu de bol niveau épouse et gosse.
Oui, c'est vrai que... Donc, dans l'appendice, c'est vrai que sa première épouse, elle est morte en couche.
Alors, Lady Jane, de la maison Royce.
Avec la fille qui est morte aussi.
Ouais. Alors, deuxième justement, la maison Royce, justement, une des maisons Banneret de la maison Arryn, dont on a déjà beaucoup parlé maintenant.
Sa deuxième épouse, Rowena, de la maison Arryn, sa cousine... elle aussi morte, sans enfant. Et enfin, la troisième épouse qui est encore en vie et qui. Lady Lisa de la maison Tully, avec qui elle a eu un fils, Robert.
Oui, et même leur fils, en fait, c'est un. Ouais, alors, c'est dit par la parce que c'est un garçon maladif de 6 ans, ouais.
Ouais, même lui, il est malade, donc pas de bol.
Mais en tout cas, ouais. C'est vrai qu'il n'a pas eu de bol et que sa relation avec Ned est assez bizarre, surtout quand on voit les âges et les dates, parce que du coup, on a une indication temporelle, et que le mariage entre Ned et Kathleen et en même temps celui de John avec Lisa, s'est passé le même jour il y a 15 ans. Et est-ce que tu te souviens de l'âge de Ned ?
Ned, il doit avoir, il me semble, dans les 35 ou quelque chose comme ça.
Exactement, il a 35 ans, donc il s'est marié à 20 ans. Et je pense que quand il s'est marié, alors justement, sachant qu'on sait, d'après les impératifs en tout cas, que Lisa, c'est la petite sœur de Kathleen.
Alors, justement, dans ma tête, c'était la grande sœur parce que ça me semblait logique, mais là,
non, justement.
Là, si tu me dis que c'est la petite sœur, ouais, c'est.
Parce que si tu regardes au niveau de la maison Tully, si tu regardes au niveau de la maison Tully, quand tu vois, voilà, Auster Tully, sire de Vivesaigle, j'en ai parlé tout à l'heure, son épouse, c'est Lady Minisa de la maison Went, qui est morte en couche. Donc en couche, c'est-à-dire quand elle a accouché de son troisième enfant dont on va parler. Donc l'aînée des enfants de Auster Tully, Kathleen, donc la femme de Ned Stark, puis Lisa, la cadette, qui est mariée à Jon Arryn, et le troisième enfant, Sir Edmure. Et le Sir Edmure, c'est l'héritier de Vivesaigle. Et donc du coup, la femme de Lord Auster Tully et la mère de Kathleen et Lisa, Lady Minisa Went, est morte lorsqu'elle a accouché de Sir Edmure Tully. Donc c'est vrai qu'au niveau des âges, il y a...
Les calculs sont pas bons, quoi.
Les calculs sont bons, mais en tout cas, elle a épousé Jon Arryn. Elle a l'air d'avoir épousé une femme qui est bien plus jeune que lui à l'époque.
Ouais.
Mais c'est vrai qu'en tout cas, Ned, il a l'air assez étonné, puis enthousiasmé à l'idée que Robert lui rende visite, le roi Robert lui rende visite à Winterfell.
Ouais, c'est sûr. Il s'en réjouit à un détail près, c'est que voilà, Robert vient pas seul. Robert vient avec la clique des Lannister.
La clique des Lannister, exactement. Donc on a d'abord le fait que la femme de Robert vient avec lui, qui est une Lannister. Est-ce que tu as noté son nom dans les appendices ?
Oh, quand même, j'ai vu la série. Cersei, bien sûr.
Ok, Cersei Lannister. Et donc, d'après Kathleen, l'orgueil de Cersei, en tout cas d'après les dires, et d'après Kathleen, l'orgueil de Cersei s'étend d'année en année. Et donc, les beaux-frères de Robert, et donc les frères de Cersei, qui se nomment
Jaime.
Ouais.
Et on a Tyrion qui n'est pas cité dans le chapitre, il me semble,
Jamie non plus, il n'est pas cité dans le chapitre. Mais en tout cas, oui, on sait qu'il s'appelle, d'après les appendices, en tout cas, Jamie et Tyrion. Donc, Jamie, je crois qu'on en avait parlé dans l'épisode précédent, c'est le régicide. C'est celui qui a tué l'ancien roi des sept couronnes, Aerys Targaryen. Donc, c'est l'héritier de Castrally Rock. Est-ce que tu vois où c'est Castrally Rock sur la carte ?
C'est dans le sud, à l'ouest, un peu plus au sud que Vivesaigle.
Exact. Voilà, exactement. Donc, c'est l'héritier de Castrally Rock en attendant que son père Tywin Lannister, qui est l'actuel héritier de Castrally Rock, meure. Et donc, la reine Cersei, qui est sa sœur jumelle et qui est l'épouse du roi Robert, et Tyrion, dit le lutin, qui est un nain.
Ouais.
Et donc, ça fait assez grimacer Ned, parce qu'il les déteste. Et du coup, on apprend dans le chapitre que, en fait, lors de la révolte du roi Robert, les Lannister ne l'ont rejoint que lorsqu'ils étaient sûrs que la victoire était à portée.
Ouais, c'est en gros des profiteurs, quoi.
Voilà, exactement. C'est pour ça que c'est vrai qu'on a vu que Ned c'était un homme qui avait l'air d'être un homme d'honneur.
Ouais, d'honneur, de principe, de valeur.
Donc c'est sûr que ce geste, il a pas dû l'apprécier.
Et même en début de chapitre, ça se voit que lui, il aime prendre des initiatives. Par exemple, quand il dit que un jour va falloir aller dans le nord et aller casser du sauvageon parce que.
Ouais, alors ça je voulais y revenir juste après.
Ouais. Mais
du coup, on peut y passer maintenant. Juste fini, donc là, à la fin du chapitre, on voit qu'il essaye de... qu'il pense à la fête qu'il va préparer et qu'il va organiser pour la venue du roi, avec des chanteurs, un festin, et donc il s'apprête à envoyer Jory pour aller réceptionner toute la cour du roi, sa maisonnée et toutes les gens qui viennent avec. Alors, est-ce que tu te rappelles c'est qui Jory ?
C'est celui qui se charge de la garde de Winterfell.
Ouais, c'est le capitaine de la garde. Pas de Winterfell, mais c'est le capitaine de la garde de Ned.
De Ned.
Ok, c'est ça. Oui, parce que. Voilà. Et donc, Jory va aller les. Voilà. Et donc, Jory va aller la réceptionner car le roi Robert, il va venir avec à peu près beaucoup de membres de sa cour, chevaliers, leurs maisonnées, des francs coureurs, etc. Mais donc, revenons à ce que tu viens, à ce que tu nous as dit tout à l'heure, par rapport au fait que Ned soit un homme d'honneur et qu'il, justement, qu'il veuille aller en guerre hein, contre le roi de l'au-delà du mur. Alors, mettons tout cela en contexte. Alors, le contexte, c'est que Ned nous apprend et apprend Kathleen que c'était la quatrième exécution de l'année et que l'homme qu'il vient d'exécuter était terrifié, voire même fou. Et nous, du coup, on sait que Gared, l'homme qui vient d'être exécuté, n'est pas fou, qu'il a vraiment vu, ou en tout cas, on ne sait pas, puisqu'on n'a pas vu voir des marcheurs blancs, mais s'il a été effrayé par des marcheurs blancs, on sait qu'ils existent, et donc on sait qu'il n'était pas fou.
Ouais.
Donc du coup, ça remet un peu en question, en tout cas pour moi, je ne sais pas pour toi, mais du coup, bah, pas la morale de Ned, mais en tout cas sa perspicacité, parce que tu sais, il a l'air un peu de se moquer quand Kathleen, elle lui parle des dangers qu'il peut y avoir au-delà du mur.
Après, je pense pas que ça remette en question sa morale, c'est juste qu'il il comprend pas exactement pourquoi la garde de nuit serait aussi effrayée alors que pour lui c'est juste des sauvageons quoi. C'est ça, il se demande pas, il se dit pas qu'il y a pire au-delà du mur.
Mais justement, c'est le problème, c'est qu'il ne se dit pas qu'il y a pire au-delà du mur. C'est là qu'il y a une certaine... Alors, le moment où il se moque, pour moi, c'est le premier moment depuis le début des chapitres qu'on va lire, où je le trouve un peu condescendant. C'est-à-dire qu'il ne cherche même pas à comprendre ce qui a pu l'effrayer. Tu vois ce que je veux dire ou pas?
Oui, c'est vrai. C'est vrai que... En fait, on le voit plus comme quelqu'un qui est tellement droit sur les principes et les valeurs, et surtout les lois, qu'il se contente d'appliquer les lois au pied de la lettre. Et s'il y a exécution, s'il doit y avoir exécution à cause de désertion, il se prend pas la peine de se demander pourquoi il a déserté dans un premier lieu. C'est surtout...
Tu penses ?
Ouais, je pense qu'en gros... C'est quelqu'un qui applique vraiment...
Au pied de la lettre. Ah, je serais pas tellement d'accord. Parce qu'il a l'air quand même d'être quelqu'un d'assez réfléchi. Je veux dire, il a pas l'air d'être quelqu'un qui est cartésien, qui a pas de... Enfin, je veux dire, tu sens quand même que lors de ses conversations, que ce soit avec son fils Bran, avec sa femme Kathleen, qu'il est quand même... Alors, je sais pas, parce que bon, c'est... Voilà, on le ressent juste à travers les dialogues, ou les bouquins, ou le ressenti des personnages. Mais... Je pense pas qu'il applique au pied de la lettre tout ce qu'on lui dit, ou en tout cas, je pense qu'il a une certaine intelligence sur certains cœurs.
Oui, c'est ça, c'est sûr, mais je pense que, en tout cas, au point où on en est, il se charge lui-même d'appliquer la loi.
C'est vrai que, bon, en tout cas, c'était le premier passage où, peut-être pas qu'il a fait une erreur, mais voilà, son comportement, il était pas. Il est pas fiable à 100%, quoi. Mais, bon. Du coup, t'as parlé des sauvageons. C'est vrai que, et du coup, Ned, parce que, alors, il a parlé des sauvageons parce que Ben lui écrit... Alors, est-ce que t'as noté qui était Ben, Ben
c'est un membre de la garde de nuit qui se trouve être le frère de Ned.
Exactement. Benjen Stark, membre de la garde de nuit et frère de Ned Stark. Et donc, ce Benjen, lui, écrit que les effectifs de la garde de nuit sont tombés à moins de 1000 hommes. Donc, on a une idée, en tout cas, du nombre numérique de la garde de nuit maintenant. Et que cela n'est pas seulement dû aux désertions, mais aussi des pertes lors des patrouilles. C'est drôle parce que, du coup, on a eu les deux cas, en tout cas, depuis le début de la saga, avec Gared, qui a déserté, et Waymar et Will, qui ont été, justement, perdus lors des patrouilles.
Ouais.
Kathleen lui demande si c'est imputable aux sauvageons et
il lui répond à quoi d'autre ? Il se demande pas vraiment ce qu'il peut y avoir d'autre que des sauvageons au-delà du mur.
Voilà. Et donc là, t'en as parlé tout à l'heure. Et là, c'est à ce moment-là qu'il évoque le nom de et qu'on avait déjà entendu en fait dans le chapitre de Bran.
De Manstrider.
Ouais.
Les inféodés de Manstrider dans le précédent chapitre.
Ouais. Donc là, on apprend que on voit qu'il est leur maudit roi, donc le roi des supposés sauvageons. Et donc, il cherche même à convoquer le ban. Alors, convoquer le ban, c'est-à-dire convoquer les bannières, convoquer tous ses vassaux pour aller combattre. Et c'est vraiment un acte de guerre, hein. Enfin, je veux dire, à cette époque-là, quand on convoque le ban, c'était pas simplement je vais convoquer mes vassaux, je vais leur dire de venir. C'est vraiment un acte de guerre, quoi.
Ouais, je vois.
Donc, en parlant de la garde de nuit, donc maintenant, à ce stade-là, est-ce que tu peux me citer les trois, en tout cas, membres affiliés à la garde de nuit qu'on connaît dans la saga?
Ah, on a Benjen.
Alors, vivant, hein. Ouais, Benjen.
On a Benjen. On a Maître Aemon, non?
Ouais, c'est ça, Maître Aemon.
On a un Mormon.
Ok, Mormon. Et du coup, en parlant de Maître Aemon, il y a deux autres maîtres qui sont cités dans ce chapitre.
Tu vois qui c'est ou pas? Maître Picel.
Ouais, alors tu as le contexte dans lequel il a été cité, Maître Picel.
Picel.
Ouais.
Alors, c'est celui qui, enfin, quand Ned essaye d'avoir un peu plus d'informations sur la mort de John Arryn, tout ce qu'on sait, c'est que, voilà, Maître Picel n'a pas pu le sauver, mais qu'il lui a fait boire du lait de pavot.
Ouais.
Pour préserver ses souffrances.
Alors, c'est vrai qu'on n'a pas évoqué la cause de la mort de John Arryn. Tout ce qu'on sait, d'après la lettre de Robert, c'est que tout ça s'est passé très vite, et que Maître Picel, même en n'ayant pas pu lui sauver, lui a administré du lait de pavot dans ses derniers instants. Alors le lait de pavot, tu sais, c'est un peu, c'est comme de la morphine.
Ouais, c'est ce qu'on utilise. Il me semble que la morphine, c'est le latex quand on coupe le pavot.
Ouais.
On a le latex et dedans il y a de la morphine et ils en font des médocs ou de l'héroïne a posteriori.
Exact. Donc c'est un peu c'est
opiacés quoi. C'est un peu leurs antalgiques.
Les antalgiques du Moyen Âge.
Du bon palier 3. On comprendra qui pourra.
Et donc du coup le deuxième maître qui a été cité.
On a Maître Luwin.
Ouais.
Qui lui semble être le maître des Stark. Car Ned le dit, je prierai Maître Luwin de choisir son meilleur oiseau en parlant d'inviter Ben à la fête.
Exact. Donc du coup, on a un mode de communication, en tout cas pour les sept couronnes, qui est par les
Messenger.
Oiseaux. Donc par les oiseaux. Donc après, on ne sait pas combien de temps prennent les oiseaux pour voyager d'un point à un autre, vu qu'on n'a toujours pas... Enfin, en tout cas, toi, tu n'as toujours pas, une certaine échelle pour les distances entre les différents royaumes, etc. Mais en tout cas, on sait qu'ils communiquent par oiseau pour communiquer à distance. Donc, de Winterfell jusqu'à la garde de nuit, là, on a une vraie distance, en tout cas. Hein. On a sur la carte et tout, on sait à peu près où ça se trouve, l'un par rapport à l'autre. Hein. Et donc, pour communiquer d'un point A à un point B qui sont assez distants, ouais, ils utilisent des oiseaux. Je me suis répété avec le nom des oiseaux. Alors, par contre, Guillaume, j'aimerais un peu revenir, du coup, sur le lieu où se déroule tout ce chapitre, parce que c'est un lieu qui est assez important et assez chargé en histoire, d'après les pensées de Ned ou de Kathleen. Donc du coup, alors comme tu l'as dit, je crois, dans ton résumé...
Et le bois sacré.
On se trouve dans le bois sacré de Winterfell. Alors vas-y, alors du coup, est-ce que tu peux me décrire ce bois sacré, ou en tout cas ce que tu as compris dessus?
Alors... Déjà, on peut comprendre que c'est les bois sacrés, il y en a plusieurs, c'est un peu comme des lieux de culte qui sont c'est des lieux qui se retrouvent à plusieurs endroits.
C'est-à-dire à plusieurs endroits.
Par exemple, Kathleen, elle a connu un bois sacré qui était très différent, celui de Vivzeg, qui est beaucoup moins oppressant que celui décrit des Stark avec un peu de parfum de fleurs, de trucs comme ça.
C'est vrai. Alors les mots qu'elle emploie, c'est ambiance riant et ouvert de jardin.
Voilà.
Avec des rubecs. Alors les rubecs, en anglais, c'est redwood, donc des arbres rouges, on va dire. Donc c'est des arbres qui sont un peu plus chaleureux que les arbres qui sont présents dans ce bois sacré de Winterfell.
Oui, et justement, celui de Winterfell est décrit comme un sombre, ténébreux, avec les arbres, c'est des barrales.
Ouais.
Et un arbre très bizarre, avec un visage. un visage qui semble être...
Ouais, un visage sculpté dans l'écorce.
Ouais, sculpté dans l'écorce. Et que, voilà. Et ça a l'air d'être un peu des lieux de culte. Et c'est là que, justement, très intéressant, au début de chapitre, on comprend que voilà, il y a des religions. Il y a des religions dans l'univers de Game of Thrones. Avec. Justement, et on comprend que Catelyn exerce une religion qui est différente de celle de Ned.
Oui, c'est ça. Bah, c'est vrai qu'on avait déjà évoqué la religion, je crois, dans le prélude.
Ouais, c'est rapidement.
Ouais, quand c'est Will qui parlait des dieux sans nom. Et ces dieux sans nom, en fait, reviennent dans ce chapitre.
Alors, on sait que Catelyn exerce la foi nouvelle.
Ouais.
Et que Ned, lui, vénère les dieux anciens.
Ok. Alors, je vais un peu revenir à tout ce que tu viens de dire. Et ensuite, je vais te faire développer ce que tu viens de dire aussi. Donc, les bois sacrés sont présents dans toutes les grandes maisons. Mais dans ces grandes maisons qu'on ne connaît pas, on ne sait pas encore quelle maison utilise des bois sacrés et quelle maison utilise comme religion, en tout cas, la foi nouvelle, comme tu l'as évoqué. Mm-hmm. Mais en tout cas, dans les maisons qui utilisent la foi nouvelle, les bois sacrés sont utilisés comme un lieu de détente et le culte est réservé au septuaire. Mais dans les maisons du Nord, en revanche... Donc du coup, en tout cas, on sait que les maisons du Nord utilisent les bois sacrés comme peut-être lieu de culte. Ça, c'est ce que, en tout cas, tu as évoqué. Il y a un arbre au cœur, donc c'est le grand arbre, justement. Alors, tu m'as dit qu'il y avait des baralles, justement. Les baralles, c'est des arbres avec des écorces blanches et des feuilles violacées. Et donc, l'arbre au cœur, c'est justement ce grand arbre situé au centre du bois sacré qui a une face sculptée dans son écorce.
C'est ça.
Voilà. Donc ça, chaque maison du Nord a un bois sacré, et chaque bois sacré possède son baral, et chaque baral possède son arbre au cœur. Voilà. Donc, on comprend qu'à Winterfell, ou dans les autres maisons du Nord, ils ont leur dieu sans nom, sans visage, comme le dit Catelyn. Et donc, par contre, en comparaison des maisons du Nord, ce serait sûrement les maisons du Sud, elle qui exerce la foi nouvelle, comme, du coup, c'est la religion de Catelyn, la religion que lui a transmise son grand-père, son père, donc la religion des Tully. Alors, du coup, est-ce que tu pourrais me décrire ce que tu as compris sur cette foi nouvelle ?
Alors, c'est qu'ils font... Sur cette foi nouvelle, on a l'impression qu'ils font quand même une fixette sur le chiffre 7.
Ouais, bien.
Septuaire, quoi, pour... Il y a une espèce de baptême, j'ai l'impression, où on est... Tu reçois 7 tués ou 1 de 7 huiles.
Ouais.
Je l'ai dit, pratique dans un septuaire. Et ouais. À la différence. Ouais, dis-moi.
C'est un septon, du coup, qui exerce le culte.
Ouais, c'est vrai aussi.
Et Catelyn dit qu'elle connaît le dieu, enfin, qu'elle connaît les 7 faces des différents dieux. Enfin, elle connaît les différents visages des 7 faces, en tout cas de la religion des 7, quoi.
C'est ça. Et contrairement aux religions à la religion de Ned Stark, les dieux ont des noms ici. Les dieux à elle avaient un nom.
Alors du coup, on n'a pas ces noms dans le chapitre, mais en tout cas, oui, les dieux de la religion de Catelyn ont un nom. Et on peut mettre en parallèle aussi à ça, du coup, que je ne sais pas si on avait évoqué les premiers hommes, du coup, soit dans le prélude, soit dans le chapitre 1. Mais je crois que dans le chapitre 1, on a évoqué les premiers hommes, tu sais, quand Ned, il parle à Bran.
On a évoqué les premiers hommes lors de l'exécution, quand il faut étouffer Laius sur Robert Baratheon, roi des premiers hommes, machin, des Andals, Rhoynar.
Ah, c'est ça, à ce moment-là.
Et à un moment, il a dit « Le sang des premiers hommes coule en nous » en parlant à Bran, c'est ça.
D'accord, donc c'était évoqué 2 fois dans le premier chapitre de Bran. Donc c'est confirmé que le sang des premiers hommes coule dans les veines de Ned Stark, mais que par égard pour sa femme, il a construit un petit septuaire à Winterfell.
Ça, c'est très mignon.
Le petit cadeau de mariage pour qu'elle puisse en tout cas exercer sa religion en tout cas de la manière dont elle le souhaite. Et donc on apprend aussi que les Stark partagent ces dieux sans nom avec les enfants de la forêt.
Oui.
Alors je sais pas si t'as noté du coup les enfants de la forêt au niveau du texte.
Si, on parle des enfants évanouis de la forêt et on comprend que c'est des créatures un peu mythologiques. Et tout comme les, enfin justement Ned les cite en parlant de ce qu'il y a au-delà du mur avec Kathleen, en disant les autres sont morts, aussi morts que les enfants de la forêt, morts depuis 8000 ans.
Ouais, c'est ça. Donc quand, bah, justement, on en a parlé tout à l'heure, quand Ned se moque de Kathleen par rapport aux croyances qu'elle a sur les créatures, ou en tout cas les choses plus ténébreuses qui rôdent au-delà du mur, il évoque aussi les enfants de la forêt qui sont, comme tu as dit, morts depuis 8000 ans. Donc on a une autre indication temporelle. Donc il y a 8000 ans, en tout cas d'après ce chapitre, hein, les autres et les enfants de la forêt seraient morts. Alors est-ce qu'ils sont vraiment morts? Parce qu'on sait que les autres sont encore en vie actuellement. Donc est-ce que les autres ressuscités, est-ce qu'ils ne seraient jamais morts et auraient vécu toujours dans l'au-delà du mur? Pour l'instant, on n'en sait pas grand-chose. Une autre indication temporelle qu'on a, c'est l'âge des héros. Je ne sais pas si tu l'as vu dans le chapitre par rapport à quoi c'est situé.
Si, c'est quand Ned, après l'exécution, en fait, il a son petit rituel, il va dans le bois sacré et il s'occupe de de glace, son épée forgée en épée en acier valérien. Et on a quelques infos encore sur l'acier valérien, donc forgé dans la Valérie.
Ouais, c'est ça.
Et on apprend que justement la lame a 400 ans et que son nom est un legs de l'âge héroïque où les Stark étaient rois du Nord.
C'est ça. Donc alors on prend la glace. Alors l'épée de Ned, on l'avait déjà vu dans le chapitre de Bran, qui s'appelle Glace, comme tu l'as dit, forgée dans la Valérie. D'avant le malheur et la servitude. Donc là, on comprend qu'il y a, en tout cas, il s'est passé quelque chose par rapport à la Valyrie, ou en tout cas par rapport aux armes en acier valérien, parce que tu vois, ça a l'air d'être assez rare en fait, vu la façon dont il l'évoque. Ces armes, elles ont pas l'air d'être très communes en tout cas. En Valyrie, je paraphrase, mais il y a eu un événement avec du malheur et de la servitude. Et donc, avant cet événement, les armuriers pratiquaient les armuriers, les forgerons fabriquaient des armes avec des incantations au même titre que le fait de frapper les armes pour les forger. Donc là, ça confirme, tu sais, on avait parlé, est-ce que la magie était connue de tous, est-ce que la magie, est-ce que c'était connu, tu vois, ou est-ce que c'était imprégné dans l'univers dans lequel on est actuellement. Et donc là, c'est à peu près confirmé. Donc ouais. les forgerons dans la Valérie, utiliser des incantations.
Ouais.
Ok. Et donc, que le nom de l'épée de Ned, Glace, vient de l'âge des héros, l'âge où les Stark étaient encore rois du Nord. Alors là, c'est dans l'appendice, je ne sais pas si tu l'as lu, mais du coup, on comprend à quoi fait référence ce nom de roi du Nord et pourquoi ils ne le sont plus actuellement.
Alors, on sait qu'ils étaient rois, ils étaient rois du Nord il y a très longtemps, et que dans la lignée Stark, il y a un roi qui s'appelait Thorin, qui est surnommé celui qui ploya le genou, qui a choisi de plaider allégeance aux Targaryens plutôt que de faire la bataille, faire la guerre.
Je crois qu'on en a parlé dans l'épisode précédent. On sait que Aegon Targaryen est venu conquérir le royaume des Sept Couronnes. Et donc, à cette époque-là, pendant justement ce qu'on appelle la conquête d'Aegon, le roi Thorin Stark, celui qui était roi du Nord, roi de l'hiver, comme vous voulez, a choisi, comme tu l'as dit, au lieu de faire bataille et de perdre des hommes, pour l'instant, on ne sait pas pourquoi, mais en tout cas, lui, il a choisi de bend the knee, comme diraient les plus anglophones, de plier le genou et de servir la maison Targaryen. Alors, est-ce que tu te souviens de la bannière des Stark? Qu'est-ce qu'elle représente?
Alors, c'est un loup-garou sur fond de neige, il me semble.
Ouais. Et donc, leur devise, elle est dite dans le chapitre.
C'est « L'hiver vient, winter is coming ».«
Winter is coming ». C'est vrai que « L'hiver vient », ça fait assez moche en français, je trouve.
Bon, ça va.
L'hiver vient. Mais ouais, du coup, « L'hiver vient », c'est les mots des Stark. Et Kathleen, elle nous apprend que c'est une exception par rapport aux mots de toutes les autres familles qui prônent l'honneur, la gloire, mais eux non.
Ouais, d'habitude, on a l'impression que les autres familles, voilà, c'est un peu pour flex. Si on regarde l'appendice, on peut avoir il me semble que si on regarde l'appendice, on peut avoir les autres.
Ouais.
Ouais, les autres devises, genre les Lannister, je rugis. Arryn aussi haute que aussi haute qu'Honor. Enfin, c'est des trucs vraiment pompeux, etc. Et on a les Stark avec un simple Livervien.
Simple Livervien, mais est très évocateur. En même temps, tu me dis. Enfin, les mecs, c'est la maison qui est située à proximité du mur. Et quand on sait ce qui est situé au-delà du mur, forcément.
On dirait que c'était un peu une priorité dans les préoccupations à l'époque pour les Stark.
C'est ce que tu penses? Tu penses que, justement... Alors, du coup, on ne sait pas quand la maison Stark... Alors, on a une indication, justement, dans le chapitre par rapport à Winterfell et quand... Enfin, pas quand ça a été fondé, mais par qui ça a été fondé.
On a, on a celui qui a posé la première pierre, Brandon le bâtisseur.
Exactement. Donc justement, on sait que alors les barrels, ou en tout cas l'arbre cœur du bois sacré de Winterfell, est plus vieux que la forteresse de Winterfell elle-même.
Ouais.
Donc ouais, Brandon le bâtisseur qui a posé la première pierre, en tout cas de Winterfell. Et donc Brandon. Alors, est-ce que tu te souviens, Bran, je te le dis, c'est le diminutif de Brandon, ou Bran, le deuxième fils de Ned. Et du coup, dans ce chapitre, il y a les trois autres enfants de Ned dont on a déjà parlé, mais qui sont maintenant cités dans le chapitre.
Oui, on a Arya, on a Sansa et on a Rickon.
Et on apprend
que Arya, elle, déjà, enfin que Arya et Sansa sont déjà amoureux de leur jeune loup-garou, et que Rickon, vu qu'il a que 3 ans, tu le fous à côté d'un truc qui fait probablement sa taille. C'est sûr qu'il va pas être serein.
Ouais. C'est vrai que le Ned, comme il a l'air assez rigoureux avec ses gosses, quoi. Parce que c'est un gamin de 3 ans, et tout ce qu'il a à répondre au fait qu'il ait peur du loup-garou, c'est il faudra bien qu'il grandisse, l'hiver vient.
Oui, et qu'il domine sa peur à 3 ans.
Voilà. Donc, déjà avec le fait qu'il vienne faire assister Bran à sa première exécution à 7 ans, tu sens que... Mais pourtant, alors lorsque Catelyn, justement, vient à côté de lui pour lui annoncer la mort de Jon Arryn, la première question qu'il pose, c'est « Où sont les enfants ?» Et elle nous dit que c'est une question qui est assez récurrente chez lui, tout le temps, dans tous les lieux, « Où sont les enfants à chaque fois ?»
Oui.
Donc c'est quand même quelqu'un qui s'inquiète beaucoup pour ses enfants, en tout cas d'après ce qu'on comprend, mais il cherche aussi à les endurcir.
Oui, je pense qu'il a vraiment une notion très familiale et qui pour lui et ses enfants c'est l'avenir de sa maison, qui cherche à les mettre sur le droit chemin et qui sont donc dirige avec beaucoup de fermeté, mais qui tient énormément à ses enfants.
Exact. Et en parlant des enfants de Ned, pareil, tout à l'heure on a oublié de citer, mais les enfants de Cersei et de Robert vont aussi venir. Est-ce que tu as pu noter leurs noms dans les appendices?
Alors on a dans les appendices, on a Joffrey.
Ouais. Donc le premier enfant de Cersei et de Robert, donc l'héritier du trône.
On a Tommen, qui a le même âge que Bran.
Ouais, alors ça c'est le dernier Tommen.
Ouais, c'est le dernier. Et entre les deux, il y a Myrcella, il me semble.
Voilà, Myrcella. Donc Joffrey Baratheon, Myrcella Baratheon et Tommen Baratheon, les trois enfants du roi et de la reine des sept couronnes. Ok, là j'essaye de revenir à peu près à tous les points qu'on a cités, mais il y a encore quelques points qu'on a oubliés. Deux petits points, je crois. Alors, revenons sur les arbres cœur. Enfin, pardon, je parlais sur les arbres au cœur. Revenons sur les barrales. Les barrales, dans le sud, ont été coupées partout.
Ouais.
Sauf à un endroit. Est-ce que tu as retenu lequel?
Oui, c'est l'île aux faces, où il me semble... Et on a une mention juste après des hommes verts ou un truc comme ça.
Ouais.
Alors, en tout cas, c'est l'île aux faces, il me semble.
Ça doit paraître un peu obscur, parce que ça apparaît pas du tout dans la série. Un des premiers éléments, je crois, qui apparaît pas du tout dans la série, donc que tu découvres. Donc du coup, est-ce que tu as vu... Alors, je crois que l'île aux faces n'apparaît pas sur la carte.
Ah, justement, voilà. Je l'ai cherché. Pas cherché hyper longtemps non plus, mais je l'ai pas trouvé en tout cas.
Ok, je comprends. Je crois qu'elle apparaît pas en fait sur la carte.
D'accord.
En fait, l'île aux faces, il faut que tu ailles dans la carte du sud, d'accord?
Oui.
Alors, va au niveau de Vivzeg.
Très bien.
Ok. Juste à l'est de Vivzeg, tu as Arenhall.
Ouais.
Ok. Et donc, Arenhall, en fait, ça se situe au nord du lac qui s'appelle l'Œil-Dieu.
C'est ça.
Et au centre de l'Œil-Dieu, c'est là où se situe l'Ilophas.
D'accord. Je ne sais pas si c'était volontaire de ne pas, de pas le mettre dans, le, dans la carte.
Ça, franchement, je ne sais pas si elle apparaît, par exemple, dans l'édition originale ou si c'est parce que c'est une carte française, donc elle n'apparaît pas avec tous les détails. Je ne sais pas du tout. Mais en tout cas, moi, je sais que l'Ilophas, en tout cas, elle est là.
Bon, je pense que ça n'a pas énormément de... Enfin, énormément de... Ça ne cause pas vraiment de problème en termes de spoil ou quoi, de savoir exactement l'Ilophas.
Non, non, du tout. Mais en tout cas, oui. Du coup, l'Ilophas a été... Enfin, pardon. Les barrages ont été coupés partout dans le sud, sauf au niveau de l'Ilophas, où justement, t'as pas les hommes verts. On nous dit que les hommes verts... Je crois que c'est dit dans le chapitre qu'ils gardent une promesse, c'est ça?
Oui. Non, que les hommes verts montaient toujours leur muette garde.
Ah, voilà. Donc, où les hommes verts montent leur muette garde. Alors, du coup, ça t'évoque quoi, ça?
Bah, que un peu la foi nouvelle a l'air... Enfin, je me demande si, voilà... Non... Dans le sud, c'est la foi nouvelle qui domine et qu'ils ont un peu, qu'ils ont un peu imposé leur religion, qu'ils ont un peu dégagé tous les vieux dieux, mmh. Et que donc ils ont coupé tous les arbres cœurs, tous les barals en tout cas.
Ouais.
Et que il y a un seul endroit, un village gaulois qui résiste, c'est l'Ilophas, avec des mystérieux hommes verts qui garde ces lieux. On se demande vraiment. C'est vrai que ça amène beaucoup de questions. Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils. Enfin, quel pouvoir ils peuvent bien avoir pour résister. Enfin, quand même, un mouvement qui a balayé tout le sud. Mmh. Donc, en tout cas, c'est les questions que je me pose quand j'ai lu cette histoire d'hommes verts.
Ok. Donc, pour toi, les hommes verts gardent. Garde le, comment dire, cette Ilophas pour protéger les derniers barals, c'est ça?
Oui.
Ok.
Enfin, je sais pas s'ils protègent les barals, mais en tout cas, ils gardent leur île précieusement.
Ok. Et donc, sur les barals, en tout cas, on sait qu'au niveau des arbres au cœur, les visages sculptés dans leur tronc sont, d'après des légendes, sculptés par les enfants de la forêt à l'aube des siècles, avant que les premiers hommes ne traversent le bras de la mer. Alors là, c'est une petite information que je vais te donner, qui apparaît dans le livre, mais qui n'est pas forcément un spoil à ce moment du livre. Peut-être que je ne vais pas te la donner. Non, je pense que je ne vais pas te la donner, en fait. Mais du coup, on sait qu'en tout cas, au niveau de là où on est, je veux dire spatialement, les premiers hommes n'étaient pas les natifs.
D'accord.
Vu que justement... Alors, les barals étaient là, les enfants de la forêt ont sculpté les visages sur les barals, et tout ça, c'était avant que les premiers hommes ne viennent.
D'accord.
Ok. Alors, juste, est-ce que tu te rappelles quand Robert, justement, a fait... non, je crois que c'est Ned, justement, qui a fait son laïus par rapport à... Juste avant l'exécution, des trois peuples qu'il dit que le roi Robert représente.
Donc, les Andals.
Ouais.
Les Rohinar.
Ouais.
Et les premiers hommes.
Ok. Alors juste, je me suis rendu compte en réécoutant le dernier podcast que du coup, on n'avait pas du tout parlé des Rohinar.
Oui, parce qu'on ne les connaissait pas. Mais, voilà. Après, si on s'y intéresse un petit peu dans l'appendice, on comprend que voilà, les différentes maisons sont les descendants des différents peuples, cités.
Alors, parce que du coup, tu as trouvé la référence aux Rohinar?
Oui, c'est en parlant de la maison Martell.
Ouais, exactement. Alors, tu peux nous résumer ce qui a été dit?
Alors, Nymeria... Nymeria, la reine guerrière du Rohinar, mmh. Fit aborder ses 10 000 navires à Dorne.
Donc, okay.
On peut comprendre
Donc, Dorne, ça se situe tout au sud.
Tout au sud.
Ouais.
Donc, on peut comprendre que... voilà, les Rohinar ne sont pas ceux qui sont sur le continent affiché sur les cartes.
D'accord.
Eux non plus ne sont pas natifs du continent sur la carte.
D'accord.
Ils ont migré au niveau de Dorne.
Ok. Ouais, après le reste de l'histoire de Nymeria, pour l'instant, on n'a pas trop à s'y intéresser. Exact. Mais en tout cas, l'information par rapport au fait que les Baralles aient été abattus dans le sud, tout ce qu'on a comme indication temporelle, c'est quelques mille ans plus tôt. Donc, c'est vrai que quelques millions plus tôt, c'est assez vague. Donc, si on vient sur une grosse temporalité qu'on apprend dans le chapitre, il y a 8000 ans, les autres et les enfants de la forêt sont supposément morts. Quelques mille ans avant, les Baralles, sur lesquels les enfants de la forêt avaient sculpté sur quelques-uns de ces Baralles des faces, ont été abattus, sauf sur l'île aux faces. Ok. Bon, je pense qu'on a dit beaucoup de choses dans cet épisode. Je pense que tu es d'accord avec moi, Guillaume.
Ouais, pour un épisode aussi court, c'est vrai qu'on s'est beaucoup étendu.
Ouais, bah, c'est ce que je t'avais dit au tout début de l'épisode. C'est-à-dire que peut-être même s'il faisait que 6 pages, il y avait vraiment masse d'informations
beaucoup, beaucoup dessus. Beaucoup d'informations, c'est vrai.
Ouais, donc.
Mais au niveau de l'action, c'était calme, ouais.
J'espère que les auditeurs ils nous en tiendront pas rigueur hein, par rapport à la longueur, je sais pas combien de temps à ça que en tout cas en brut on a 1h06 de tournage. Je sais pas combien de temps ça va rendre au montage mais bon. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié l'épisode de cette semaine par rapport au chapitre de Kathleen. Et donc on se retrouve la semaine prochaine pour le chapitre de
Daenerys. À la prochaine.